Comment dire des nouvelles ?
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Quoi de plus banal au fond qu'une histoire d'amour, même s'il s'agit d'un amour adultère. Mais quand la littérature s'en mêle, quand une romancière vient décrasser au White Spirit le bon vieux roman d'amour avec une verve nerveuse, il y a bien de quoi s'enflammer. Voici donc un roman qui figure en bonne place sur les listes des prix littéraires de l'automne. Son titre tient en trois lettres, F-E-U, pour feu. Ce feu qui purifie et qui détruit, le feu de l'enfer et le feu sacré, le feu qui danse ou le feu qui calcine, le feu qui réchauffe et celui qui brûle. Feu de Maria Pourchet est paru chez Fayard, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Maria Pourchet.
Bonsoir.
Le premier personnage que l'on découvre, c'est Laure. Laure, elle est prof dans une université parisienne, elle a dans les 40 ans, elle est mariée, deux enfants, une bonne situation familiale et professionnelle. Pourtant, elle n'est pas heureuse. Qu'est-ce qui coince ?
Alors, elle a une... peut-être qu'elle a beaucoup de choses. Elle a beaucoup de choses qui ne parviennent pas à occuper la place vacante qui reste en elle. Et elle continue à chercher quelque chose. C'est pas forcément pas heureux. C'est des vies tièdes, en fait. D'où l'importance le danger d'un feu quand on attend que lui pour se réchauffer.
Oui, ça veut dire qu'elle s'ennuie. Ça veut dire qu'elle fait un petit peu comme Ebba Bovary, quoi. Elle a besoin, que quelqu'un, d'une étincelle pour vivre.
Je pense qu'elle s'ennuie. Je pense qu'elle se voit vieillir à toute vitesse. Voilà.
Oui, et donc elle a peur de ne pas réellement vivre, en fait.
C'est ça. Ouais, elle a peur d'être la version bémol de sa propre vie.
Alors, je parlais d'Emma Bovary. Il y a un petit côté Emma dans le personnage de Laure. Certains diraient aussi qu'il y a un petit côté Charles dans le personnage de son mari.
Alors, oui, son mari est délibérément médecin, mais c'était plus une révérence obligée à presque une fille de style, une révérence obligée à l'œuvre référence en la matière. Après, pas au-delà, non, parce que la Bovary, enfin là, j'en veux peut-être plus à Flaubert qu'à la Bovary elle-même, elle a pas beaucoup de ressources. Je l'ai toujours trouvée très décevante quand je lisais cette histoire enfant. Oui. Et j'aurais aimé ça fait peut-être partie des raisons cachées qui m'ont fait écrire cette histoire. Mais on imaginait, quand on est une jeune fille et qu'on lit cette histoire, on s'imagine mieux de la part des femmes. On regrette que Flaubert n'ait pas projeté quelque chose d'un peu plus triomphant, voire d'un peu plus intelligent. Moi, j'ai jamais compris pourquoi elle se tuait pour Rodolphe. Jamais.
Ah, oui,
à la rigueur que Rodolphe se tue parce qu'il est pas intéressant, oui.
Oui.
Mais pourquoi mourir pour ce mec ? Alors ça, c'est...
Ça reste un mystère à vos yeux.
Vraiment, ça m'indignait même.
Bon, alors dans votre livre à vous, l'amant ne s'appelle pas Rodolphe, mais il s'appelle Clément. Alors lui non plus, il n'est pas heureux. Hein. Il a la tristesse tatouée à la verticale sur la bouche, pour reprendre les mots de Laure, hein, lorsqu'ils font connaissance. En fait, lui, enfin, il y a plein de choses qui vont pas dans sa vie, mais en particulier son travail. C'est-à-dire que son travail, on pourrait dire que, eh bien, il a de l'argent. Il est particulièrement bien intégré puisqu'il est banquier, mais il est complètement désabusé, quoi.
Oui. C'est son travail. Alors, est-ce que ça va pas dans son travail ? Ça n'irait pas dans n'importe quel travail. C'est un peu la peau de chagrin, ce type. Il est, comme il le dit souvent dès le début, il est déjà mort. Donc, il lui faut, pour trouver des raisons, quand on est déjà mort, de se lever et d'aller travailler dans un environnement aussi hors sol que celui dans lequel il travaille. Hors sol au sens littéral, il le décrit comme quelque chose d'aérien et entre lui et la terre, il y a 36 étages de verre, les gaines de climatisation, le métro.
Il travaille dans le quartier d'affaires de la Défense,
au sommet
dans un endroit
de la Défense.
Qu'il a surnommé la banquise. Il manque effectivement de chaleur humaine.
Et lui, au contraire de Laure, donc il n'y a rien de terrestre dans sa vie, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'amour, en revanche, il y a un chien,
oui.
Et il a rassemblé toute son attention, toute l'attention dont il est capable pour ses semblables, mais pour le vivant, et rassemblé, qui ne vit pas dans un environnement qui semble vivant, dans la banque, et toute son attention au vivant est concentrée sur son chien.
Donc deux personnages qui ne sont pas heureux dans leur vie personnelle, deux personnages qui, a priori, Maria Pourchet, n'avaient pas grand-chose pour s'aimer, voire même pour se rencontrer.
Alors ça, je n'ai jamais... je vois ce que vous voulez dire, mais je n'ai jamais compris cette appréciation. Si des gens se rencontrent, c'est qu'ils la rencontrent... c'est qu'il y a un noyau dans cette rencontre, c'est qu'il y a une nécessité. En tout cas, pour eux, la nécessité me paraît assez claire. Ils ont chacun une part manquante, et il s'agit de la combler. Alors après, c'est deux vides aussi qui vont se... Ça peut être... Ces deux vides qui vont se cannibaliser, donc ça peut...
Alors ça se passe dans un restaurant, puisque Laure
va
recruter en quelque sorte Clément pour qu'il participe à une sorte de table ronde, de colloque. Qu'est-ce qui d'emblée, parce que c'est au début du livre, hein, qu'est-ce qui d'emblée touche Laure dans la personnalité de Clément? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'intéresse à lui?
Elle ne sait pas ce qui la touche, elle va le savoir. Peut-être ce qui la touche, c'est elle-même. C'est-à-dire qu'elle sent qu'elle s'approche de quelque chose qui ressemble à la vie. En tout cas, ça fait longtemps que sa température, son rythme cardiaque n'était pas monté aussi haut. Et puis surtout, elle a même pas le temps d'avoir le recul qui lui ferait dire tiens, c'est ça qui m'attire. Elle est magnétisée. Il y a quelque chose de l'ordre de l'obsession immédiate. Ça, c'est des phénomènes qui existent. C'est le phénomène chimique, là, pour le coup. Et donc, elle va fixer ses mains, ensuite, après son visage.
Alors, ses mains, elle est tout de suite frappée par la tristesse de ses mains. Des mains pessimistes, c'est ça qu'elle les décrit.
Tout lui paraît déjà. Elle est extrêmement touchée par le côté... par le mal de vivre, qui est la nostalgie qui se dégage de ce personnage. Comme elle le décrit, ça pourrait presque être un fantôme, et on aurait envie de passer à travers. Et en tout cas, elle s'approche vraiment à la lisière de ce personnage c'est quelque chose qu'elle ne voit pas tous les jours.
Il est triste, effectivement. En tout cas, il a l'air triste, hein, le personnage de Clément dans les yeux de Laure. Est-ce que vous diriez que c'est un personnage cynique, Maria Pouchet?
Alors, cynique, comme tous les gens supérieurs, l'intelligence prédispose au cynisme. Vous n'avez pas l'impression?
Je vous pose la question, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question.
Enfin, en tout cas, ces formes-là d'intelligence analytique, encyclopédique, très forte.
Mais l'intelligence, c'est la capacité à comprendre le monde. Donc ça veut dire que si on comprend le monde, on a la philosophie du chien.
Ah oui, si on va chercher l'étymologie. Oui, cela dit, ça irait bien avec Clément qui est fasciné par son chien. Mais en fait, plutôt l'ironie. Alors, ça prédispose à l'ironie. Les capacités d'analyse prédisposent à l'ironie. Est-ce que ça va jusqu'au cynisme pour lui? Oui. Et je disais que les gens particulièrement intelligents y sont disposés, puisque la mécanique du doute ne s'interrompt jamais. Ils remettent toujours en doute leur propre diagnostic, leur propre conclusion, leur propre réponse à leurs propres questions. Et ça aboutit forcément à une forme de cynisme, ou moins de relativisme absolu.
Donc cynique, fragile et l'air triste, pas heureux. En plus, on peut pas dire que Clément soit l'archétype de la virilité, quoi. C'est même plutôt le contraire. Il en souffre, hein, d'ailleurs.
Il n'est pas dans l'absolu, mais ce qu'il représente pour Laure, ce qu'à mon avis Laure érotise, c'est-à-dire la solitude, la douceur, ça vaut largement les signes archétypaux de la virilité qu'il n'a effectivement peut-être pas. D'ailleurs, elle ne le décrit jamais réellement physiquement.
Physiquement, on le connaît pas. Donc, évidemment, chaque lecteur a sa vision de Clément et évidemment sa vision de Laure en lui.
J'ai remarqué que les lectrices l'aiment beaucoup, Clément. Quand les lectrices viennent m'en parler, elles sont vraiment très très touchées, beaucoup plus que par Laure. Elles sont très touchées par Clément. Donc, je me dis que c'est pas forcément une faillite de la virilité. It's dangerous. So far in love, but I wanna burn with you tonight. You hurt me. There's two of us, resurging with desire. The pleasure's pain and fire burn. So come on, I'll take you on. I ache for love, ache for us. Why don't you come? Don't you come a little closer? So come on now, strike the match. Strike the
Fire Meet Gasoline, Sia dans VMDN sur RFI avec Maria Porchet pour son roman Feu paru chez Fire. Alors je suis pas un grand spécialiste en chimie, Maria Porchet, j'ai un petit peu révisé là ce week-end, mais je sais que pour qu'un feu démarre, il faut un combustible, autrement dit ce qui brûle, il faut un comburant, ce qui permet de brûler, et il faut une source de chaleur, d'énergie, il faut quelque chose qui déclenche en quelque sorte l'incendie, le feu. Alors dans votre roman, les combustibles, ce sont donc les personnages qui se consument d'amour. On a déjà évoqué l'étincelle, le point de départ de la passion amoureuse. Vous parliez vous-même de chimie. Il y a un instant, qu'est-ce qui déclenche cette passion amoureuse, ce feu?
Alors, ce qui la déclenche chez Laure, si tant est que ça puisse être vraiment objectivé, ça on ne sait jamais. Hein, que ce qui la déclenche chez Laure, je dirais, c'est vraiment les mains. Elle n'en fait pas une analyse. C'est vraiment un détail, ouais, c'est vraiment physique. Et puis c'est tout ce qu'elle ne connaît pas. C'est peut-être une histoire d'ailleurs de température ou à chaque fois qu'il s'agit de passer à un chapitre où Clément prend la parole, ça commence par ses constantes. C'est pour ça, elle varie. Et ça, pour le coup, elle ne l'explique pas. Il y a une affaire effectivement de température. Les deux montent en température et en pression. Et le combustible, c'est d'abord les mots. Et ensuite, c'est le fantasme, et ensuite, c'est l'attente, et tout ce qui fait que les feux deviennent des incendies.
Bon, et le comburant, alors, qu'est-ce qui permet
c'est quoi, à déjà,
cet incendie de durer? Qu'est-ce qui permet à cet incendie de durer? C'est le fait que les deux soient mal dans leur peau? Ils ont mal de leur époque, ils ont mal à leur époque, finalement, quelque part, ces deux personnages, Maria Porchet.
C'est la disposition, effectivement, à aller. Le comburant, je dirais que c'est la disposition à toujours espérer, à toujours rêver, lui n'a plus la capacité d'illusion nécessaire à relancer des histoires d'amour. Mais quand même,
il a 10 ans de plus, un petit détail, mais bon.
Il a 10 ans de plus, voire 2000 ans, quoi. Il aime se voir aimer dans les yeux de cette femme. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Mais il a décidé qu'il n'aimerait pas. Et elle, justement, elle a besoin de la capacité d'illusion. Elle ne cesse de la nourrir. Elle n'arrête pas de parler de l'illusion, du fantasme. Elle le regarde comme tel. Elle sait objectivement que c'est une illusion, un fantasme. Mais elle décide qu'elle en a besoin. Que ce qui manque dans sa vie, c'est précisément cette la fantasmagorie. Et lui, il sert à ça.
Il y a de très nombreuses phrases qui claquent dans votre roman, Maria Porchet. Par exemple, celle-ci. Que vous placez dans la bouche de Clément, l'époque est un crachat. Est-ce que vous reprendriez cette phrase à votre compte?
Alors là, elle est vraiment sortie du contexte, comme on dit, elle fait effectivement extrêmement virulente. Non, moi j'aime bien mon temps. Je me suis toujours trouvée bien dans mon temps. J'ai toujours trouvé que c'était aussi décevant ou violent que ce soit. Je suis bien dans mon époque. Elle me passionne.
Bon, et pourtant, c'est vous, Maria Porchet, qui ajoutez en permanence de l'essence dans cet incendie passionnel, de l'acide, du vitriol, je disais du white spirit tout à l'heure en introduction, en tout cas du liquide inflammable. C'est vous qui rajoutez en permanence, c'est vous qui donc nourrissez ce feu, cette passion qu'il y a entre Laure et Clément. Est-ce qu'il y a quelque chose de jubilatoire à appuyer là où ça fait mal?
Ah oui. Oui, je pense que avec des personnages qui vont au terme de certaines émotions, qui sont explosifs par définition, là, pour continuer facilement la métaphore du feu. Ouais, il y a quelque chose de, c'est un vecteur aussi, ouais, effectivement pour l'auteur, pour dégager des émotions trop fortes ou je sais pas quoi d'ailleurs, on emploie toujours le mot cathartique en l'occurrence.
C'est-à-dire qu'un bon personnage, c'est un personnage qui souffre sous la plume.
Ah non, il n'y a pas de perversion. Non, je les aime beaucoup, mes personnages.
Ah ben, on peut vouloir faire souffrir quelqu'un en les aimant.
Ah non, il n'y a pas ça. Au contraire, j'aime bien l'idée de les faire passer par des épreuves dans une démarche peut-être un tout petit peu judéo-chrétienne où je me dis, mais ils seront mieux. Ils vont renaître après l'épreuve.
Pour progresser, on a besoin de souffrir.
Exactement, voilà. Et je me dis, l'or qui va être le phénix de ce feu, qui va renaître, descendre de ce feu, je me dis, c'est bien. Mais effectivement, je l'ai pas épargné. Je l'ai vraiment un petit peu poussé au bout de retranchement, au bout d'une terre que s'il m'était arrivé la même chose, j'aurais jamais. Moi, je n'aurais jamais atteint ces extrémités. Donc, il y a quelque chose, peut-être de l'ordre de la consolation ou de la compensation, j'en sais rien. Mais en tout cas, pas de la perversion de l'auteur.
Parce qu'elle est tourmentée, le personnage de Laure, justement. Elle est mariée, elle trompe son mari, elle découche, elle ment, donc à sa famille, à ses enfants. on sent que c'est compliqué pour elle, parce qu'elle peut pas se passer de cette passion. Et en même temps, elle voudrait ne pas avoir à la subir, en quelque sorte.
Exactement. Bah, autant Clément a peur de mourir s'il va vers ce feu-là, autant elle se dit qu'elle va mourir si elle n'y va pas. Comme si c'était la dernière fois qu'une chaleur se proposait de réchauffer son sang. En fait, c'est pour le coup la comparaison avec Emma Bovary, elle est très très forte. C'est-à-dire que Emma Bovary, elle traverse effectivement les formes les plus douloureuses de la passion et elle y reste. Laure traverse les formes les plus déchirantes de la passion aussi, mais elle en fait quelque chose. C'est-à-dire qu'elle va vraiment au bout. Elle en renaît.
Et pour raconter cette passion qui va donc consumer vos deux personnages, je rappelle que le mot passion, pour revenir à l'étymologie, c'est aussi la souffrance, hein, c'est l'amour, mais et l'amour qui fait souffrir tellement il est fort, tellement il est ardent. Eh bien, finalement, vous avez choisi un dispositif narratif singulier, Maria Bourcher. Vous alternez deux monologues intérieurs à travers des chapitres extrêmement courts. On est donc alternativement dans la tête et dans le cœur de Laure et dans la tête et dans le corps de Clément. Clément dit je. Les chapitres qui le concernent sont écrits à la première personne. Laure, elle, et c'est sans doute un petit peu moins courant dans la littérature, elle dit « tu », mais qu'on ne s'y trompe pas, elle s'adresse à elle-même. Donc, fait, elle s'adresse à un autre soi, en quelque sorte. Ouais, hein. Ouais. C'est d'ailleurs avec elle que commence le récit. Comment est-ce que cette écriture avec le « tu » s'est-elle imposée, Maria Bourcher?
Alors, avec le « tu », ça s'est imposé... C'est plutôt le « je » qui a commencé par s'imposer naturellement avec Clément, parce que c'est avec lui que je suis le mieux. Il peut me faire rire, justement, j'aime bien son intelligence, jouer avec. Je suis très attachée à Clément. Donc, naturellement, j'ai dit « je ». Et puis, comme c'est celui qui fait... Il a de l'humour, parfois, ce garçon. Donc, c'est le plus jubilatoire d'écrire comme ça. Il y a des traits dans son enfance que j'ai empruntés à la mienne et tout, enfin, lointainement. Mais voilà. Donc, pour moi, ça n'était plus naturel. Et Laure, le tu est venu aussi... il fallait une distinction d'énonciation, mais c'est venu aussi assez naturellement, puisque...
Pardon de vous couper, pourquoi il fallait une distinction d'énonciation? Vous auriez pu dire alternativement « je » à travers les deux personnages.
Alors, je pense que je n'aurais pas réussi. Déjà, c'était déjà acrobatique de passer d'une énonciation à une autre. Si j'avais mis « je » à chaque fois, sachant qu'à chaque fois qu'on écrit un personnage, on l'habite un peu quand même. Hein. Là, j'ai une bonne base schizophrène, mais là, je l'aurais un peu potentialisé, je pense.
Et donc, le « tu »
Et donc, le « tu », Laure, elle vit, comme vous dites tout à l'heure, elle vit un conflit intérieur entre la femme qu'elle est censée être et la femme qu'elle est souterrainement. Donc, s'adresser à soi, le discours de soi à soi, pour moi, c'est psychologiquement, même psychiatriquement, c'est l'expression même du conflit. Même si elle n'est pas... c'est pas pathologique non plus. Mais voilà. Et rétrospectivement, je me dis « tu », il y a « tu ». Il y a une violence dans ce mot.
Donc, du verbe tuer, quoi.
Du verbe tuer, ouais. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Est-ce qu'elle ne veut pas tuer cet amour ou tuer une certaine femme en elle?
Une histoire de règlement de compte personnel, de reproche à soi-même, une forme de culpabilité?
Ouais, soit tuer la femme, alors qu'elle cherche, elle attend d'avoir honte, ça la rassurera d'avoir honte, mais la honte n'intervient jamais. Et je me dis, peut-être qu'elle veut tuer la femme d'avant, ou la femme qui s'annonce, la femme amoureuse, la femme passionnée, je sais pas, mais je me dis, le ressassement du tu comme verbe du verbe tuer, il ne peut pas être anodin, mais voilà, ça demanderait une lecture lacanienne que je suis absolument incapable de faire.
Alors un exemple pour que les auditeurs se rendent bien compte, on est à peu près à ce moment-là du roman, juste après la rencontre entre Laure et Clément. Laure est rentrée chez elle, elle est dans la salle de bain, et nous y sommes donc avec elle à la page 48.
En attendant, il est 23h, et si la bourse, elle, ne dort jamais, chez toi, tout le monde est couché. Tu ne pourras pas rester toute la nuit assise sur la baignoire. Regarde-toi. En culotte et les yeux bouffés par le néon bleu d'un téléphone. Tu ressembles déjà à une erreur. Voici une heure, il t'a écrit « Qui es-tu ?» Tu as pensé « Trop facile, dragueur ». Mais depuis, tu cherches à répondre. Tu n'as pas l'habitude de rendre copie blanche, de sauter des questions. Et tu voudrais bien avouer quelque chose. Te montrer un peu nu, puisqu'il fait nuit, puisqu'il attend. Qui es-tu ? Tu n'es pas une intellectuelle. C'est simplement qu'il fallait un trésor. Une armure, que l'harmonie périssable de ton visage n'aurait pas suffi, on t'aurait détruite. C'est simplement qu'il fallait un trésor, une armure, que l'harmonie périssable de ton visage n'aurait pas suffi, on t'aurait détruite. Tu n'es pas dupe. Tu n'es pas le résultat croisé d'une scolarité brillante et d'une endurance hors norme, comme il te l'a dit tout à l'heure. Tu t'es simplement mise à 20 ans, là où le café, les profs et la lumière étaient gratuits. Tu n'es pas fière. Tu fais la différence entre l'opération de la volonté et l'effet de la programmation sociale. Ton diplôme dévalué par la massification de l'éducation supérieure et ton salaire artificiellement gonflé par l'inflation, tu es, c'est mécanique, au même point que tes parents. L'illusion de la croissance en moins, tu as déployé des efforts inouïs pour rester sur place. Tu n'es pas un cygne, mais un hamster. Tu n'es pas blonde, tu es à l'origine châtain cendré, donc terne. Tu n'es pas un exemple. La plupart du temps, tu n'es pas celle que l'on croit. Tu n'as pas sommeil.
Maria Pourchet, on est frappé donc par l'usage de la deuxième personne qui revient comme ça presque à chaque ligne, un peu comme un martèlement. Il y a aussi le rythme, hein, très syncopé des phrases qui sont souvent très courtes, très concises, parfois brutales, comme j'ai dit tout à l'heure, des phrases sèches, des phrases qui claquent. Il y a des exemples d'ailleurs beaucoup plus frappants que ceux qu'on vient d'entendre. On est dans une écriture très très clinique, très très froide, sans concession, très presque à l'os. Pourquoi cette sécheresse volontaire?
Bah, déjà, il n'est pas systématique. Parfois, il arrive que les personnages s'adressent eux-mêmes comme ça ou décrivent la réalité qui les entoure de manière clinique, comme vous dites. Mais parfois, ça peut être plus lyrique, plus sentimental, plus généreux. Et c'est ces variations-là précisément qui m'intéressent. C'est pas ce qui est volontaire, c'est les variations. Alors, j'ai été obligée de me demander. On m'en parle tellement de ce rythme un peu scandé de mon écriture que j'ai
très frappant au début. Hein. Ouais. D'ailleurs, on a besoin de s'habituer justement à cette rythmique-là.
Et je finis par me dire que ça correspondait à ma respiration. Moi, j'ai une respiration très courte. J'arrive pas à prendre des grandes inspirations comme ça et à rester sur mon souffle. Il y a toujours quelque chose d'un peu haletant quand je parle et qui se retraduit dans l'écriture et qui à mon avis est potentialisé par le fait que j'ai pas le temps d'écrire. C'est aussi paradoxal que ça puisse paraître. Comme je vis pas encore de mes livres, mais je vis de l'écriture, je suis scénariste pour le cinéma et la télévision, mais le temps, il est encore un peu volé, le temps de l'écriture. Et quand j'en ai, mais même quand j'ai 3 semaines devant moi, je me dis là, il faut pas que je perde une seconde. Et donc, d'où cette écriture un peu au galop, je pense.
C'est très étonnant parce que souvent, les jeunes écrivains, puisque vous avez quelques livres au compteur, mais enfin, vous êtes encore une jeune romancière, Maria Pourchet, souvent ils disent, mais c'est très très compliqué d'écrire court. Et donc, en fait, là, vous écrivez court.
C'est très compliqué.
Parce que vous n'avez pas tellement le choix, en fait.
C'est très compliqué d'écrire long. Et puis, j'ai quand même le souci de pas noyer, de pas ennuyer. Je me suis toujours dit que moi, j'écris pas pour moi, en fait. J'écris pour être lu. Et moi-même, j'ai jamais aimé les livres qui ne parvenaient pas à faire, à tort ou à raison, hein, mais qui ne parvenaient pas à faire l'économie de mots. J'aime pas quand c'est trop bavard.
Donc vous n'êtes pas du genre à écrire et ensuite à élaguer, à couper, etc. Vous écrivez naturellement.
Il n'y a plus grand-chose à couper.
Voilà.
Pour le coup.
Mais vous avez fonctionné de la même façon pour les chapitres qui nous emmènent cette fois-ci dans la tête de Clément ou pas du tout?
Alors, Clément, il n'a pas le même rapport au langage. Autant, donc, Laure, c'est l'expression du conflit, autant Clément, lui, il parle à son chien. Donc, il y a quelque chose d'un peu plus chaud. Et puis, comme c'est la personne, parce que la personne du chien, ça a du sens pour Clément, puisque il s'appelle papa, etc. Donc, c'est son bavardage quotidien. Donc, il y a quelque chose de plus oral, de plus familier, de plus souple, de plus abondant aussi de la part de Clément, parce qu'il lui raconte quelque chose.
Vous les avez rédigés séparément, les chapitres Clément par rapport à ceux de Laure, ou vous les avez rédigés complètement? C'est-à-dire que vous avez écrit le personnage de Laure, le personnage de Clément séparément, et ensuite vous les avez entrecroisés?
Plus ou moins, oui. En fait, il y avait vraiment des saisons d'écriture, parce que comme ils n'ont pas du tout le même registre et pas exactement le même ressenti, je pouvais vraiment pas passer de l'un à l'autre. Donc il y a un été où j'ai, enfin il y a un mois de juillet où j'ai écrit le personnage de Clément comme ça un peu sur la même lancée, en respectant toutes les étapes de l'histoire. Et ensuite, j'ai écrit l'or, mais l'or, j'avais été capable de l'écrire. Il fallait que je sois moi-même un peu douloureuse, un peu en hiver, métaphoriquement ou réellement.
Ouais, donc vous avez vraiment besoin de vous mettre en condition pour épouser les contours de vos personnages.
En tout cas, pour cette histoire-là, oui. Pour Clément, j'étais plus légère, plus distanciée, alors que c'est le personnage qui finalement est le plus peut-être le plus vaincu dans cette histoire. Mais voilà. Mais moi, il fallait que je sois en été pour parvenir à écrire Clément. Et Laure, c'était le contraire. Voilà, c'est tout ce que. Et après, oui, j'ai un peu recomposé. Et là où il y avait des blancs, des angles morts, je les ai comblés.
Mais il y a aussi des chapitres où alternativement on a la vision de Laure et la vision de Clément sur les mêmes événements. Donc on a deux regards. Alors,
pas exactement
miroir.
Sur les mêmes événements. C'est toujours un peu après. C'est ils suivent c'est des successions. C'est j'ai essayé de que ce soit chronologique. Ils ne répètent pas. Enfin,
Mais ils regardent un petit peu dans le rétroviseur.
Voilà, ils regardent tous. Hein, ils regardent tous les deux Clément pour le raconter à papa, le chien. Et Laure pour s'engueuler ou pour... Mais oui, ils regardent tous dans le passé immédiat, oui.
Alors, pour continuer dans la comparaison entre les deux, il y a aussi une différence au niveau des titres de chapitres. Parce que Laure, pour Laure, il n'y a pas de titre. Voilà, on rentre directement dans sa tête et dans ses mots. En revanche, pour Clément, eh bien, sont indiqués au début de chapitre les indications de santé, les constantes de santé que lui fournit son application de santé. Je ne sais pas si c'est sur son ordinateur ou sur son smartphone.
Ouais.
Donc, température corporelle, température artérielle, etc. Comment vous est venue cette idée ?
Déjà, ça répondait à une nécessité un peu mécanique, presque, parce qu'il fallait... j'avais peur qu'on ne distingue pas assez, pas immédiatement, pas assez rapidement, on est dans un chapitre Laure ou un chapitre Clément. Et ensuite, des constantes, en plus données par une application, c'est vraiment l'abstraction pure. Et le fait de définir par chaque entrée de chapitre Clément par ses constantes, c'est dire à quel point sa vie à lui est une abstraction. C'était cette figure là qui a imposé cet usage là. Et si et les constantes, elles peuvent se lire aussi. Elles donnent des données. On voit que plus il avance dans la vie, plus il faiblit. Le rythme cardiaque faiblit, la température faiblit. Et en général, ça a du sens ou avec ce qui est raconté dans le chapitre.
Nous sommes à la page 37, donc dans la première partie du roman.
2 juin, 20h10, température corporelle 37,2, fréquence respiratoire 12 par minute, fréquence cardiaque 86 par minute, tension artérielle de 15. Tourniquet, parking, radio classique à fond, marche turque, j'ai tapé comme un sourd sur le volant, mais on se détend, c'est pas ma caisse, allez à la banquise. Ils ont ma peau en échange, j'ai choisi la plus grosse, le break, la réservée aux dirigeants à Marmaille. Pas pour moi, pour le chien, il l'adore. Ça me donne une vraie raison d'aller bosser. Nanterre, Courbevoie, Paris, quai, maison, papa. Il m'attend, il gueule, il bave. Il m'aime, il pue et c'est ma faute. Ça venait un bouvier bernois, c'est long. Et la dernière fois, j'ai senti sous sa gorge rouler ses nodules inquiétants. Je n'ai pas eu depuis un mois le courage de vérifier. J'ai les jetons. Je l'appelle papa pour faire crever de rage ma très sainte mère qui n'a jamais relevé. Et parce que papa, c'est le propriétaire en règle générale, qui m'a déjà bien pété les doigts, alors un jour, j'ai dit stop. Dorénavant, papa, ce sera le clébar. Il faut bien commencer quelque part. Un verre de flotte, la chemise au panier, et c'est reparti pour 1 km le long de la Seine. 20 minutes de petit trot à me sentir du mauvais côté de la laisse. Des limonopes, pissés sur un platane. Ligne droite jusqu'aux Tuileries, puis tentative de demi-tour dardard en prévision de Rebecca Ware. German pornostar, laissé en HD hier accroupi sur sa copine carré CFR, installe la fibre quand ils veulent dans ma grotte à 6 000 € par mois. Hors charge. Refus de papa qui veut pousser jusqu'à Orsay. Allez d'accord, papa a fait une excellente affaire avec moi parce que pour un chien, être l'homme de la situation, c'est inespéré.
Qu'est-ce qui compte le plus dans votre phrase, Maria Pourchet ? Le rythme de la phrase, la musicalité de la phrase ou le choix des mots ?
Alors c'est assez indissociable, non ?
Ben, tout va ensemble, en tout cas. C'est l'ensemble des trois qui permet d'entrer dans la psychologie du personnage.
Ah oui, le rythme et la musique, c'est très très important. Quand un personnage apparaît, vient à moi, il vient avec une musique et presque parfois certains se réfèrent à une musique en particulier, à une chanson, à des rappeurs que je me mets à écouter à ce moment-là. La musique est très importante, ouais.
Et c'est-à-dire, vous évoquez le rap, donc ça veut dire que le rythme est aussi très important. Ça veut dire que les allitérations, les sonorités mots comptent aussi dans la façon dont vous composez votre texte.
Énormément, ouais.
Alors, appeler son chien papa, c'est évidemment pas tout à fait neutre, Maria Pourchet. On a souvent d'ailleurs l'impression que c'est pour son chien, que c'est pour papa que Clément vit.
Oui. Oui, il aborde jamais ce problème frontalement. Il n'est pas si psychologue que ça, mais on sent progressivement que la place laissée vide par son père, qui est mort quand il était jeune, fait partie de la détresse de Clément, fait partie de son mal de vivre. Et le fait que ce qui compte, la boule de poil, qui compte le plus pour lui, qui est presque, comme il dit, une raison d'aller bosser, et progressivement même une raison de vivre, s'appelle papa. Donc il y a une espèce de transfert qu'il qualifie jamais comme ça. Il dit juste qu'il a appelé papa pour emmerder sa mère. Mais c'est une transition affective, comme on dit.
Sakes, why am I driving in the wrong lane? Trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you?
About You, Overphonic dans VMDN sur RFI avec la romancière Maria Pourchet, Feu est paru, je le rappelle, aux éditions Fayard. Alors on a entendu la voix de Clément, on a entendu la voix de Laure, on a parlé de papa, donc le chien, sachant donc que le vrai papa de Clément est aux abonnés absents, tandis que le mari de Laure, lui, eh bien, il n'est pas là non plus. Hein, enfin, voilà. Donc les hommes sont quand même très très en retrait dans votre roman, Maria Pourchier. En revanche, les personnages féminins sont très présents, y compris lorsqu'ils sont morts. D'abord les aïeuls, parce que elles parlent depuis la tombe, en quelque sorte. Et ça, dès le premier chapitre, hein, y a comme ça une petite allusion. Et tout au long du roman, de temps en temps, eh bien la maman décédée de Laure fait entendre sa voix. Enfin, Laure imagine ce que sa maman lui aurait dit dans telle ou telle situation. Alors, on connaît Victor Hugo, hein, l'œil est dans la tombe et regarde Caïn, dans la légende des siècles. Là, l'œil est dans la tombe et regarde Laure qui est encore bien vivante.
Exactement ça. C'est l'œil était dans la tombe et regarde Caïn. C'est vraiment exactement ça. C'est l'expression des conditionnements et de l'éducation dont c'est quand même fait de beaucoup d'interdits et de dépréciations dont Laure a été l'objet, qui s'exprime comme ça. Dès qu'elle commence, c'était aussi pour expliquer pourquoi ça va être si compliqué pour elle, pourquoi ce n'est pas léger d'aller vers cet amour-là. Dès qu'elle fait un pas, en fait, dès qu'elle imagine s'autoriser quelque chose, il y a une voix qui résonne, qui est celle de sa mère, qui dit « tu plaisantes là ou quoi ?» Et il y a au-dessus, quand ça va un peu mieux, il y a la voix de la grand-mère qui, elle, on a pas mal bavé, hein, on imagine connu les deux guerres, etc., et qui est plutôt sur un registre, bah fonce, la vie est courte. Et plus on avance dans le texte, moins c'est la voix de la mère, la voix de la mère recule, et finalement Laure n'entend plus que la sienne de voix. Ça, c'est un phénomène qui m'a toujours intéressée. J'en ai déjà fait un livre qui s'appelle « Toutes les femmes sauf une », à quel point les... j'ai l'impression que les hommes moins, mais peut-être pas, hein, peut-être que c'est vraiment totalement suggestif. Les femmes... Et enfin, s'inscrit vraiment dans une matriligne et où il y a une suite de mots d'ordre, d'injonctions à faire ceci, ne pas faire cela. Enfin, toute la rhétorique du tiens-toi droit, regarde où tu mets les pieds, ne rêve pas trop, etc. J'ai toujours eu l'impression, en tout cas, moi, dans ma famille, les femmes sont quand même pas mal encombrées de consignes comme ça. Le surmoi féminin est important et charge à nous de génération en génération de se délester d'un toujours un peu plus.
Ça veut dire que l'héritage d'une mère, c'est d'abord un poids.
En tout cas pour Laure, oui. C'est pas que ça. C'est un trésor, mais c'est aussi, en tout cas, l'héritage langagier de Laure, il est lourd.
Alors il y a la grand-mère, il y a la mère, il y a Laure. Ouais. Et il y a les deux filles, et singulièrement il y a Vera, qui est donc l'une des filles de Laure. Alors c'est une fille d'aujourd'hui, hein, c'est une milléniale comme certains disent. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de ce personnage, et puisqu'on évoquait l'œil à l'instant, pourquoi est-ce que vous aviez besoin du regard de Vera sur sa mère?
Parce que ça fait partie justement de la matriligne, quoi. De la même façon, en fait, Laure, elle est prise entre deux feux. La voix de sa mère, la voix intérieure de sa mère, le fait pas ci, fait pas ça, dont elle n'a jamais réussi à se débarrasser. Elle arrive, et au moment où elle arrive un petit peu à s'en débarrasser, elle est face au regard de sa fille, et sa fille, et c'est celle qui, à la fin de cette ligne de femme, va vraiment faire exploser le truc, va vraiment casser la danse. C'est elle qui représente le côté paradoxalement puritain, un peu l'ordre moral, ce qui est en gros ce qui fait d'excellents terroristes. C'est elle qui va l'incarner, parce qu'elle voit dans la génération de ses parents, elle fait partie de ces ados qui sont nés, elle est née indignée. Elle voit dans la génération de ses parents là une faillite morale, politique, culturelle, le climat, c'est pas ça, les mœurs, c'est pas ça, la société, c'est pas, bref, rien. C'est comme si ses parents étaient responsables de cette génération-là, comme moi je pouvais avoir parfois ado vis-à-vis des boomers, mais pas autant. Elle reprend ce truc-là, elle reprend cette indignation viscérale vis-à-vis, c'est une sorte de féminisme aussi.
Elle aurait voté Sandrine Rousseau à la primaire écolo,
par exemple. Vera, ouais, oui.
C'est au un moins, petit peu ce genre de.
Mais à mon avis, elle vote même pas.
De vision du monde.
Elle vote même pas. Je pense qu'elle voit aussi dans la politique déjà une faillite de l'intelligence. Donc non, elle n'aurait même pas voté. Elle pose des bombes. Elle finira comme ça, je pense.
Il y a un mot qui est très très à la mode en ce moment dans les débats politiques en France, c'est le mot radical. Mm-hmm. Elle est radicale.
Oui, elle est radicale.
Le, Vera. Voilà, cette radicalité-là, est-ce que c'est l'avenir ? Parce que Vera représente l'avenir.
Non, je ne pense pas. C'est son âge. Elle fait partie de ces filles qui ont investi, d'autre chose, elle investit le rôle de la victime historique. En gros, elle hérite de combats, notamment pour la place des femmes dans la société. Elle en a une conception un peu particulière. Et elle n'a pas souffert, elle, comme femme, dans sa chair, dans son vécu, etc. Mais en tout cas, elle endosse ce combat-là. Et donc, de manière extrêmement théorique. Et c'est ça qui va la pousser à une certaine radicalité. Mais moi, je me dis... j'aime beaucoup le personnage de Vera, donc je vais le reprendre dans un prochain livre.
Ah, c'est intéressant, parce que j'allais vous demander s'il fallait lui inventer un avenir. Si elle aussi allait prendre sa part du feu, en quelque sorte.
Je pense qu'elle va vieillir, il faudra voir ce que ça devient quand elle va aimer. Parce que précisément, ce qui fait de sa mère un phénix, ce qui fait que sa mère termine un cycle et a la possibilité d'en commencer un autre, c'est l'amour. Et ce qui transforme les femmes, elle manque d'amour simplement, Vera. Donc je pense que... Je ne sais absolument pas quel avenir lui est réservé, mais... Je suis pas sûre qu'elle se fasse sauter, quoi.
Merci beaucoup, Maria, pour Chez Feu. Votre nouveau roman est paru aux éditions Fayard, un livre que nos éditeurs vont pouvoir gagner en répondant à la question du jour. Alors, elle est vraiment facile, parce qu'on en a parlé vraiment très très clairement. Comment s'appelle le chien de Clément? Réponse, évidemment, via la page Facebook de l'émission et en message privé, bien sûr.
زمان طلوع القيطانة مالك يا أنا انت فم طبلة تضحك فرحانة مالك يا أنا انت فم تفلانا الله لك يا انا انت فم امرت تبارع والهانة الله لك يا انا انت فم سانا لالك يا انا انت فم حس الحيوان حذانا لالك يا انا انت فم نعرف الهول انت فم
فنو هي la voix de la diva mauritanienne Maluma dans VMDN sur RFI. Des emplois qui changent des vies, construire la Mauritanie, c'est le titre de l'exposition photographique à découvrir jusqu'au 8 octobre au cœur de Madrid. On est face à la porte des Alcalá et au parc du Retiro, le long de la rue Serrano, l'une des artères les plus animées, les plus commerçantes, les plus luxueuses de la capitale espagnole. 20 photographies de grande dimension, résultat de 4 ans de travail et de 15 ans de voyage du photographe espagnol Alfredo Calis. Rarement la Mauritanie aura été à l'honneur de cette manière en Espagne. À Madrid pour VMDN, François Musso.
Le contraste est saisissant. Le passage des voitures sur la rue Serrano, les boutiques huppées, des passants bien habillés et tout à côté, ces 20 photographies grand format sur un pays, pour ainsi dire, inconnu auprès des Espagnols, la Mauritanie. Financée par l'Union européenne, cette exposition a un but premier qui est clairement lié à l'emploi. Federico Barroeta, basé à Nouakchott et en charge de l'emploi et de la jeunesse à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, définit ce but.
L'objectif au début, c'était d'abord, c'est le domaine de l'emploi des jeunes et des questions de formation professionnelle. Donc l'objectif aussi, c'était de voir cette jeunesse en mouvement et de voir aussi des opportunités. Pour se dire, il faut montrer aussi que l'évolution et comment les jeunes, ils peuvent profiter de cette formation, peut leur donner des opportunités pour le futur et parler avec une image positive.
Dans l'exposition, on apprécie les photographies qui précisément documentent ces chantiers qui sont autant d'opportunités d'emploi. L'une d'elles représente des femmes en train de construire des écoles en sable et en adobe. Une autre montre des apprentis pêcheurs à bord d'embarcations traditionnelles. Sur une autre encore, on apprécie un groupe de femmes topographes. Le photographe Alfredo Calis souligne l'importance de cette profession.
Là, ce qu'on peut voir sur le cliché, c'est un groupe de personnes. Il y a des enseignants et d'autres se formant au métier de topographe. Elles pourront ensuite aménager des pistes dans des zones souvent isolées. Le fait d'aménager ces pistes permet d'économiser des heures de déplacement.
Le propos de cette exposition, plantée au cœur de Madrid, c'est aussi de faire découvrir un pays en entier, dans toutes ses dimensions, dans toute sa grandeur et aussi dans son esthétique. Federico Barroeta y est spécialement sensible.
Tout d'abord, la Mauritanie, c'est un pays fantastique. C'est un pays beau, c'est un pays où les gens ils sont chaleureux, où il y a une véritable bienvenue quand on arrive. Et pour moi, c'est un pays qui est très important dans ma vie parce que je me sens très à l'aise, en fait. Je me sens, moi-même étant espagnol, on est une société qui est relativement ouverte et j'aime la façon de vivre des Mauritaniens.
Une des choses qu'a voulu capter le photographe Alfredo Calis, c'est la diversité du pays, faussement homogène et monotone. En passant d'un panneau à l'autre, on voit clairement ces considérables contrastes. Deux images résument cette notion de diversité outre les scènes de pêche. Tout d'abord, le premier cliché. On y voit un homme en train de marcher de dos en pleine tempête de sable le long d'une route. Alfredo se souvient nettement de ce moment.
Le personnage que vous voyez là est un compagnon. Il transite par la route de l'espoir, la Rua de la Esperanza. C'est la première route qui a été construite en Mauritanie depuis l'indépendance et qui traverse tout le pays. Là, ce qu'on peut voir sur la photo, c'est une personne marchant en pleine tempête de sable. On l'appelle l'Armatan là-bas. C'est un vent très violent. Vous voyez aussi une étoffe qui est la Dara, l'habit traditionnel de la majorité des Mauritaniens. Cet habit flotte dans le vent et prend des formes à la fois étranges et séduisantes.
Et puis, à une cinquantaine de mètres, une autre photographie parle d'une toute autre atmosphère. On y voit au premier plan une femme au travail, en train de ramasser des pierres, et au loin, un paysage de pâturage. Un paysage qu'Alfredo Calis apprécie particulièrement.
Le désert, à première vue, est un territoire très homogène. Et pourtant, quand tu voyages à travers lui, tu te rends compte qu'il y a des variations, que tout change. Et tu apprends à donner de l'importance à ces changements. Moi, c'est en particulier la lumière de la Mauritanie qui me paraît très évocatrice et très photogénique.
Désert, oasis, fleuve Sénégal, pâturage, littoral pour les pêcheurs, école en construction, ce sont les principales composantes de cette exposition qui, en plus de dépeindre un pays mal connu et positif, en montre toute son ampleur et sa richesse.
Reportage de François Musso à Madrid. On va marquer une pause et vous avez évidemment rendez-vous avec l'actualité internationale. On se retrouve demain avec le plasticien Jean-Michel Autoniel pour l'exposition Le Théorème de Narcisse, actuellement au Petit Palais à Paris, et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.
RFI, la